vais commencer par toi, Guillaume. Guillaume, il est directeur éditorial chez Flammarion, donc tu vas pouvoir nous réexpliquer un peu ce que tout ça veut dire. Je l'ai connu il y a une dizaine d'années, on avait lancé une opération d'écriture d'un premier roman pour un jeune talent qu'on ne connaissait pas, mais qu'on avait essayé de faire émerger via un concours d'écriture. Et c'est comme ça qu'on s'est rapprochés et que notre histoire magnifique s'est lancée aussi. Et donc Guillaume, il est aujourd'hui chez Flammarion. Il a été l'instigateur, l'éditeur, le tremplin de plein de gens, de Florian Zeller. Qui connaît Florian Zeller? Ouais. Donc voilà, c'était un très jeune auteur à une époque. Et Guillaume et Guillaume a eu le nez fin, il avait capté ce truc-là, tu peux nous en reparler. Puis depuis, il fait le grand écart et il peut publier Zlatan Ibrahimovic. Tous ces gens-là ont des histoires à raconter. Ce qui m'intéressait, c'était de commencer à te poser la question de qu'est-ce qui fait une bonne histoire? Qu'est-ce qui fait une bonne histoire, toi qui en vois passer des centaines? Qu'est-ce qui t'interpelle? Qu'est-ce qui capte ton attention? Peut-être que d'ailleurs, ce qui aujourd'hui te plaît n'était pas ce qui te plaisait il y a 10 ans. Donc, nous dire ce qui capte ton attention et en quoi peut-être ton choix, ton édition, ton œil a évolué au fil des années. Moi, tu peux y aller, ouais.
Bonjour tout le monde. Pour répondre à ta question, moi, je pense que ce qui m'a toujours animé, en fait, dans tous mes choix, effectivement, donc ça fait 23 ans maintenant que je suis chez Flammarion. Effectivement, je fais aussi bien de la non-fiction que de la fiction. Je crois que le point commun entre tout ça, c'est la sincérité. Moi, je crois que, ça peut paraître, mais c'est absolument sincère, c'est le cas de le dire. Moi, c'est ça que je vais chercher quand je rencontre un auteur. C'est aller, parce que souvent les auteurs arrivent avec alors moi j'ai l'idée de ça, et souvent les deux trois premiers sujets sont totalement pourris, donc moi je les laisse dérouler, voilà, alors c'est une histoire qui se passe en 2060, allez, vas-y raconte ton truc, j'écoute rien en fait, parce que ces histoires là souvent elle n'est pas du tout intéressante, et puis à un moment voilà, je tire un fil. Et ça, c'est l'histoire vraie. Parce que souvent, voilà, ils se sont imaginés quelque chose. Et moi, mon métier, c'est accoucheur, en fait. On parlait de maïeutique ensemble avec Greg. Et moi, c'est vraiment ça, c'est aller chercher l'histoire chez quelqu'un. Et elle est toujours là, présente, mais c'est jamais l'histoire que la personne choisit de raconter. Et en fait, c'est là où un éditeur, voilà, est un peu un psy, un accoucheur, c'est de trouver, voilà, le vrai récit. Et souvent, les gens ne savent pas choisir le vrai récit. Et notre métier, c'est ça. Et moi, c'est ça que j'adore faire. Effectivement, et au fil du temps, des années du métier, on ne va pas chercher exactement les mêmes histoires, parce qu'on va aussi chercher des histoires qui nous intéressent, nous. Donc moi, voilà, je vais les histoires qui m'intéressent, c'est du jeu, c'est du sincère, c'est du sensible, et voilà, et moi, c'est ça que je vais chercher.
Ce coup de cœur que tu peux avoir, est-ce que finalement, c'est la rencontre humaine qui va précéder la découverte du récit, ou le contraire? Ou c'est un tout?
Alors moi j'aime bien rencontrer les gens, moi j'ai besoin justement, c'est pour ça que j'ai un peu souffert, faire de la maïeutique en Teams, c'était vraiment relou, et moi j'ai besoin d'aller boire des cafés, voilà, moi je suis une personne de la rive gauche et tout ça, donc du coup moi voilà, il faut que je passe du temps à discuter, machin, et c'est là que j'accouche mieux quoi, désolé, hein, c'est comme ça, hein, je suis old school.
Ouais, mais je crois qu'on l'est tous un peu d'une certaine façon, ok, magnifique. Si toi Stéphanie, tu devais prendre le relais et nous dire ce qui fait une belle histoire pour toi. Alors présente-toi peut-être aujourd'hui chez Arte Concert, je suis sûre que ça nous intéresse tous.
Bonjour, donc, je suis Stéphanie Poncelet, je m'occupe d'Arte Concert chez Arte. Il y en a qui ne connaissent pas? Ah, j'adore! Ça veut dire que le boulot, il avance. Bref, voilà, nous, notre boulot à Arte, en tout cas spécifiquement sur la musique et le concert, c'est de... raconter le monde, ça peut paraître un peu des grands mots, mais c'est raconter le monde à travers le spectacle et les artistes de la musique. Et puis ça va du concert de Freddie Mercury à Wembley, qu'on considère être comme une œuvre de patrimoine, à il y a deux semaines, Suzanne qui nous présente son nouveau single, Clit is Good. Voilà. On raconte le monde d'aujourd'hui aussi avec les artistes.
Et est-ce que tu as donc aujourd'hui vous faites la promotion évidemment de contenu à l'image, mais vous faites aussi des contenus rédactionnels, vous êtes sur des formats assez différents.
Je dirais pas qu'on fait la promotion en fait. Enfin, c'est alors évidemment quand on invite les artistes dans nos émissions, ils viennent faire de la promo, comme on appelait ça quand on travaillait ensemble dans le disque. Mais on va leur donner de la visibilité, on va se faire leur porte-voix. Mais je n'appellerai pas ça de la promotion. Voilà,
c'est... Promotion, c'était mettre en valeur. C'était vraiment, oui, okay. C'était dans
d'accord.
ce sens-là. Ouais, ouais.
Je pinaille
c'est,
sur les
mais
mots.
Mais c'est le bon lieu pour. Ouais, donc en fait, finalement, dans tous ces formats, ça m'intéresserait que tu expliques un peu concrètement les pastilles que tu sors, parce que pour ceux qui connaissent, donc vous tous, Arte Concert, il y a plein de pastilles, il y a plein de formats. Qu'est-ce qui est le dénominateur commun de tout ça ? Toi, en tant que voilà, directrice de cette ligne éditoriale, c'est quoi le point commun entre tous ces récits, qu'ils soient parfois très courts ou à d'autres moments qui durent très longtemps ?
Le dénominateur commun, on en a déjà tous un peu parlé ici, c'est l'émotion qu'ils vont déclencher chez nous ou chez le public. C'est le message qu'ils portent, la sincérité de leur message. Quand, voilà, quand Suzanne vient parler du plaisir féminin dans son single, elle vient raconter un truc qui lui est propre et qui lui est personnel, mais qui est aussi universel. Universel. Oh,
déformation.
Pardon.
Magnifique.
Voilà, juste pour expliquer un peu plus notre démarche sur comment on raconte la musique à travers nos émissions, on a donc nos formats longs, qui sont des programmes voilà, d'une durée de concert classique qu'on diffuse sur notre plateforme Arte TV et sur notre chaîne YouTube. Et puis après, on va à l'intérieur de ces concerts chercher le petit moment qui peut créer un contenu propre à un autre endroit. Exemple, dans un concert ou dans un spectacle de danse ou dans un opéra, on va repérer une petite séquence qui sera propice à créer un mème qu'on va diffuser sur Instagram.
Ouais, je comprends. C'est ce dont on va parler tout à l'heure, c'est la 10e tendance de la journée, on en parle cet après-midi, c'est l'écosystème de contenu. Quand partir d'un premier format et le décliner, le dérouler dans d'autres. Joachim, avant peut-être que tu répondes à la question, donc tu es Head of Comms chez Netflix aujourd'hui, et je voulais qu'on regarde cette vidéo. Qui connaît ce format-là ? Ok, donc finalement quelques personnes, mais encore assez peu. Je lance la vidéo, elle dure 2 minutes, et après on va en discuter. Voilà. ce qui m'intéressait, Joachim, c'est quand on voit un format comme ça, qui est totalement fucké, qu'est-ce qui a fait la force de ce... Enfin, donc déjà, peut-être te présenter en quelques mots, et ensuite nous expliquer ce qui a fait la force de ce programme. Ce qui fait que ce récit-là fonctionne, finalement. Alors que sur le papier, je pense que c'est pas une évidence. Tu te lances dans le truc, tu te dis, OK, ça va être un pari. Qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné ?
Alors juste pour resituer un petit peu, donc moi je travaille effectivement dans l'équipe Netflix en France. Nous on a une centaine en France, il y en a à peu près la moitié de ces gens-là qui sont qui travaillent spécifiquement sur le fait de commissionner, d'accompagner la création des productions françaises. Donc ça va être choisir des projets, ça va être les accompagner dans le développement créatif et on va en reparler je pense un peu plus tard, mais il y a un vrai dialogue sur la création, sur le storytelling, sur les choix artistiques, etc.
C'est ça.
Et ensuite, la post-production, la mise à disposition de tous ces contenus, les effets spéciaux, enfin tout ce qu'on peut imaginer derrière. Et puis l'autre moitié, effectivement, c'est des gens comme moi, des juristes, des gens qui font différents métiers, des fonctions support, qui représentent à peu près l'autre moitié de Netflix en France. Donc effectivement, les aventures de Joe Exotic donc sur Tiger King, c'est un bon exemple d'un documentaire sur un sujet qui, a priori, intéresserait trois pelés, deux tondus. Hein. C'est un mec chelou qui a un parc d'attractions bizarre avec des tigres plus ou moins bien traités. Mais on a plein d'autres histoires comme ça sur le papier qui paraissent hyper boring. On a eu un Oscar l'année dernière sur un documentaire qui s'appelle... La sagesse du poulpe, l'histoire d'amitié entre un homme et une pieuvre, voilà, c'est des trucs qu'on peut trouver a priori pas passionnants. Et en fait, c'est la capacité de transformer ça en une histoire et de reprendre en fait les codes d'écriture sérielle, donc les codes d'écriture qu'on peut voir dans les séries qu'on aime, qu'on regarde. Donc typiquement, ça passe par le fait d'avoir des personnages forts, des personnages auxquels on puisse s'attacher ou qu'on puisse détester sincèrement. Je pense que lui, on peut s'attacher, on peut aussi le détester. Ça passe par le fait d'avoir une vraie histoire. Et donc c'est vrai que par exemple, en matière de documentaire, ce qui change un petit peu et ce qui a un peu renouvelé le genre, c'est que finalement, on ne cherche pas des sujets. Il y a des sujets qui sont passionnants, mais qui ne sont pas porteurs d'une histoire. Donc ce qu'on cherche, c'est une histoire qu'on peut découvrir à travers... Un sujet, pardon, qu'on peut découvrir à travers une histoire. C'est des rebondissements aussi, il faut des rise and fall, il faut des moments de jubilation, des moments d'inquiétude, des moments de frustration. En tout cas, il faut qu'on puisse vivre ces émotions au fil du récit. Il faut qu'on puisse aussi retrouver des codes comme les cliffhangers qui donnent envie de voir la suite. Nous, on a un service sur lequel les gens sont leurs propres programmateurs. On ne peut pas décider ce qu'ils vont regarder, ce n'est pas un business d'offre. On propose des choses, mais c'est eux qui vont choisir ce qu'ils vont regarder. Et par ailleurs, s'ils s'emmerdent au bout d'un quart d'heure, ils ne vont pas nous accorder la politesse de rester un peu plus longtemps ou à la différence, par exemple, d'une expérience en salle, quand on a payé 10 ou 15 euros son ticket, bah, s'il y a 5 minutes où on s'emmerde un peu, on va quand même rester, quoi. Donc, il y a ce challenge de faire en sorte de raconter des histoires, de les rendre accrocheuses, feuilletonnantes, engageantes, de donner envie de passer du temps. Les gens, ils payent pour ce service, donc quand ils regardent un truc, il faut qu'ils en aient pour leur argent. Je pense que ça doit être un point commun aussi avec l'édition. Et donc, ça passe par ces personnages, par cette écriture sérielle qui permet aussi d'apporter du relief, du rebondissement, de l'émotion. Et c'est donc une histoire, c'est aussi un début, un milieu et une fin. Et un sujet n'a pas toujours une fin, donc il faut qu'on ait une fin à l'histoire. Et donc ça nous a permis de renouveler un peu le genre documentaire. Ça a permis aussi, effectivement, de le faire sortir d'une case qui était peut-être un petit peu une case confidentielle sur le documentaire du jeudi soir à 23h sur Arte ou sur France 5, parce qu'on a aujourd'hui effectivement des docus être des vrais des hits hein, que tout le monde va regarder, qui vont être conversationnels. Donc c'est je pense l'imprégnation des codes de l'écriture sérielle qui permettent de donner cette accroche, cet engagement autour de ces histoires.
Passionnant en soi. Moi, ce que je vois là-dedans aussi, c'est qu'à un moment, vous avez mis les bons. Il y a des ingrédients. On les met, on va bien voir ce que ça va donner. Le gâteau qui va sortir de ce truc-là, on ne le maîtrise pas, mais a priori, il va être bon. Je crois que le mot binge-watcher est quand même venu de Netflix, quoi. Si tu avais un dernier conseil peut-être à donner aux marques qui sont là, tu en as déjà partagé plein, hein, mais sur ce qui va faire une bonne histoire et ce qui va faire qu'on va la regarder et la consommer de façon récurrente, s'il y avait un sujet au milieu de l'écriture sérielle, des personnages, des caractères, est-ce qu'il y a encore un petit truc dont tu as pu observer au milieu de tous les contenus que vous sortez, que ce soit des films ou des docus? Voilà, qui serait le truc à ne jamais oublier, finalement.
Je pense que c'est vraiment l'importance des personnages. En fait, on s'attache à un personnage, on va avoir envie de suivre ses histoires. Et je pense qu'il peut même y avoir des histoires qui sont, parce que là, on est dans du pur divertissement, mais des histoires corporate, ou des histoires d'entreprise, ou des histoires de produits, ou je ne sais quoi, ou de processus de création, qui peuvent être racontés par ce prisme-là. Mais ça veut dire aussi le raconter différemment, choisir un point de vue, une façon de rentrer dans l'histoire, de trouver aussi des arcs narratifs, de voir comment on peut donner du relief à tout ça et pas simplement délivrer l'histoire, je pense, d'un point de vue d'entreprise, mais plutôt de le prendre du point de vue de quelqu'un qui va révéler quelque chose. L'autre truc intéressant, c'est que souvent les projets comme ça qui vont prendre un élan particulier, ça va être des projets qui, à travers la petite histoire, racontent aussi quelque chose d'un peu plus grand, qui sont révélatrices d'un phénomène. Et là, à ce moment-là, ce qui est cool, c'est qu'on va avoir le mix idéal où c'est divertissant, on va la regarder, il va se passer un truc, et en même temps, on va découvrir un phénomène de société, une transformation, ça peut être nous. Par exemple, c'était intéressant, le documentaire sur l'affaire DSK, parce que en fait, ce qui est révélé surtout, c'était à quel point, à ce moment, enfin, la société avait changé. En fait, quand on regardait ce truc-là, c'était une sorte de capsule temporelle où on se rendait compte qu'on ne vivait plus vraiment dans le même monde et on se retrouvait à nouveau dans ce monde-là. Et là, le truc, il est super intéressant parce que il y a une plus grande histoire, mais qu'on prend par le biais de la petite histoire.
Là, je comprends, c'est hyper intéressant. Pour ceux qui étaient là hier à la demi-journée sur TikTok, il y a un truc que j'ai retenu aussi, c'est qu'il faut savoir aussi dicter ses propres règles, en fait. Là, j'ai l'impression que vous avez dicté vos propres règles. À un moment, vous avez dit « Ok, enfin, c'est une question que je me posais d'ailleurs, c'est est-ce que ça rentre quand même dans une case où il n'y a pas un algo, hein, mais il y a quasiment plein d'ingrédients qui nous disent que ça devrait marcher? Ou est-ce qu'à un moment, on tente, de toute façon, je ne vais pas trop poser la question parce qu'il faut que tu reprennes ton souffle, sauf si tu as envie de... Ouais. Vas-y alors.
Non, pas du tout. Alors vraiment, l'enjeu, c'est de partir des bonnes histoires. Donc après, c'est toujours la même chose. Je pense que c'est cette idée de curation, de sélection, d'accompagnement et de développement, en fait. C'est ce qu'on appelle le développement dans les séries ou dans les films. Donc tout ce travail d'écriture en fait qui va être fait et je pense qu'il y a aussi un enjeu important là-dessus et ça vient de l'écriture sérielle, c'est aussi l'écriture collective, on en parle un petit peu tous les deux tout à l'heure, c'est qu'en fait il y a des histoires qu'on raconte mieux quand on en est un peu dépositaire ou quand on est plus proche du sujet et quand il y a plusieurs points de vue à apporter dans une histoire, c'est intéressant aussi d'avoir plusieurs auteurs qui vont pouvoir aussi apporter leur vécu, leur ressenti et des perspectives différentes. Et donc je pense que ce qu'apporte l'écriture sérielle, c'est aussi ce truc-là, c'est que c'est pas une écriture en chambre solitaire avec une personne qui va essayer d'avoir toutes les perspectives sur un sujet, c'est aussi d'avoir ramené des gens qui vont être divers dans leur parcours, dans leur ethnicité, dans leurs orientations politiques, sexuelles, whatever, et qui vont être capables aussi de donner du relief, de la substance, de la texture en fait aux histoires, et ça fait une vraie différence aussi.
Vous trouvez qu'on le fait assez ça dans le monde des marques? pas assez, hein, je trouve, hein, de se mettre vraiment autour de la table, de faire bosser des gens de cultures différentes, des scénaristes qui viennent s'auto-compléter. Ça, c'est un truc sur lequel je pense qu'on a matière à mieux faire. Jean, j'ai reçu une invitation il y a quelques semaines de ta part. C'était Jean-Anne Smenel, a le plaisir de vous convier à la cérémonie de remise de ses insignes de chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'honneur. Donc on peut l'applaudir pour ça. Non mais c'est à Strasbourg, c'est un week-end où je dois partir en famille. Je dis bien sûr je viens, de la même façon que tu joues le jeu, je joue le jeu. Je me demandais, le récit dans cette Légion d'honneur que tu allais chercher, il a eu quelle place en fait ? Quelle a été la place de finalement ta capacité à embarquer les gens par les histoires que tu racontais, et finalement, si, donc sans être dans l'ego trip du « voilà pourquoi je viens d'obtenir la Légion d'honneur », ce qui m'intéresse, c'est quels sont les ingrédients que tu as mis toi dans ta vie, parce que je sens qu'ils sont quand même liés à cette récompense qu'on donne. Quels sont les ingrédients que tu as mis dans ta vie en tant que communicant pour à un moment arriver à embarquer les gens autour de toi et à faire du récit un atout majeur dans le cadre de ton développement?
C'est pas bien, hein, de balancer comme ça. Je sais pas, parce que la Légion d'honneur, c'est un truc. Moi, j'ai pas compris comment c'était arrivé, hein, donc je sais pas qui m'a balancé. Et je l'ai découvert. Je l'ai découvert au 1er janvier par des SMS qui me parvenaient et que je ne comprenais pas très bien. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc c'est évidemment un vrai honneur et ce que ça m'a amené, c'est que je pense que la vie c'est des rencontres. La première, c'est certainement la rencontre avec ta mère et puis ton père et puis tes frères, la famille, les amis et puis tes histoires personnelles, tes histoires. Donc les rencontres, c'est ce qui te constitue, quoi. Or la rencontre, c'est toujours cette histoire de l'autre. Hein. L'identité que tu peux affirmer, tu peux l'affirmer parce que tu as le regard de l'autre. Donc, pour moi, ça tourne toujours autour de ces histoires-là de création et d'échange. Je suis vraiment un fan de ça. J'adore produire du nouveau. Ouais. Produire du nouveau, fabriquer du nouveau, et tu t'aperçois que pour fabriquer du nouveau, c'est vrai que le meilleur truc, c'est l'altérité. Alors, l'altérité, ça peut être en soi-même, hein, dans un dialogue interne d'auteur traditionnel, ou l'altérité dans le travail collectif, quoi. C'est quand même formidable, si vous voulez, de se dire que la coopération, c'est quand même vachement mieux que la compétition. Que la coopération, c'est quand même vachement mieux que la confrontation, surtout quand elle est négative. Or, en fait, on est élevé là-dedans. On est élevé dans « faut être premier à l'école, faut être premier machin, etc. » Donc, si tu as un premier, tu as un gagnant, tu as plein de perdants. C'est débile. Alors qu'en fait, 1 plus 1, ça, en coopération, ça fait plus que 2. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. Donc, ce que j'essaie de faire, et que je continue à faire avec l'industrie magnifique maintenant, c'est ça, c'est cultiver les différences, conjuguer les différences. Plus il y a de gens différents, mieux c'est. Plus c'est le bordel et plus ça va créer du neuf. Et plus ça va créer du neuf et plus ça va être vivant et c'est un cercle vertueux.
Ah ouais. Voilà. Non mais c'est super intéressant. Guillaume, c'est ce que tu vis aussi au quotidien en tant que directeur éditorial. Est-ce que c'est un travail assez solitaire, celui que tu fais, ou est-ce que c'est un travail collectif ?
Alors oui, collectif toujours, parce que moi j'écris pas. Justement, on me pose parfois la question, voilà, est-ce qu'un éditeur, ça écrit ? Moi, je fais partie de cette race d'éditeurs qui n'écrit pas, parce que moi, je m'exprime à travers les projets des autres. Et donc oui, assurément collectif, parce qu'encore une fois, tout ça naît de la rencontre. C'est ça qui est, encore une fois, passionnant, c'est que y aura un livre, il y aura un projet, parce qu'il y aura une rencontre. Donc oui, absolument le collectif.
Peut-être rebondir sur un deuxième thème que j'avais envie d'aborder dans le cadre de notre table ronde, c'est les tendances qu'on observe aujourd'hui dans les industries créatives, la littérature, la musique, la série, le documentaire, et dont les marques pourraient s'inspirer et reprendre. Donc Guillaume, toujours à toi, puis après n'hésitez pas à rebondir entre vous. Hein. Mais je sais, quand on a préparé un peu la discussion, tu me disais que le livre Promesse, c'est quelque chose qui marchait bien aujourd'hui. Donc je veux bien que tu nous en dises un mot, et peut-être cet équilibre assez ténu entre fiction et non-fiction. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très vrai dans le monde des marques aussi. À la fois raconter quelque chose qui est réel, mais lui créer une sorte de magie autour d'un habit qui va lui donner encore plus de groove et d'intérêt, quoi. Je sais pas si tu veux réagir là-dessus, puis peut-être Stéphanie après, pareil, rebondir.
Effectivement, il y a cette vraie tendance globale que tu viens d'évoquer de narrative non-fiction, enfin voilà, qui est moins dans mon domaine. Et c'est vrai qu'on avait parlé de cette idée de livre-promesse. Et moi, c'est souvent ce que je cherche, en fait, quand je rencontre des auteurs de non-fiction. Alors là, on n'est pas du tout du côté littérature, on est plutôt dans d'autres domaines. Et c'est vrai que moi, ces dernières années, j'ai beaucoup accompagné d'auteurs dans les sphères de... que moi j'appelle voilà, philosophie grand public et développement personnel. Voilà. Et là, ces livres-là, c'est vrai qu'ils vous apportent quelque chose. On a traversé des années particulières, des années compliquées, des années dures pour plein de gens. Et c'est vrai que moi, les auteurs qui ont le plus explosé ces dernières années, voilà, ce sont deux philosophes, c'est Fabrice Midal et puis Marie Robert, qui est aussi ma petite sœur. Je ne sais pas si certains connaissent le conte philosophie sexy. Il y en a, j'adore, plusieurs. C'est très bien, on a un peu réussi notre boulot. Effectivement, et là, effectivement, on s'est rendu compte ces dernières années que la philo pouvait être démocratisée, etc., et apporter quelque chose et avoir une vraie, vraie valeur ajoutée. Encore une fois, hein, on n'a rien inventé, ça fait 2000 ans que ça existe. Mais c'était bien de remettre ça voilà, au cœur du système. Pour revenir sur l'autre tendance, effectivement, c'était tendance lourde de la non-fiction. De plus en plus de romans sont complètement inspirés, enfin sont carrément en fait des autofictions, des histoires vraies. Et c'est vrai que moi je trouve qu'il y a la pure fiction devient effectivement un genre très à part, soit dans les littératures de genre, soit effectivement dans ce qu'on appelle le feel good. Mais tout ce qui est plus littéraire va tendance à aller vers le plus réel, le plus concret. Il y a un vrai trouble aujourd'hui entre roman et récit. Les trois quarts de ce qu'on appelle roman sont en fait des récits. Donc ça, voilà, je trouvais que c'était une tendance intéressante aussi. Et on en parlait tout à l'heure avec Joachim, c'est vrai qu'il y a aussi dans le docu-fiction, effectivement, ce trouble entre fiction et non-fiction. Je fais des passerelles.
Bah, si vous voulez un peu réagir à ça, Joachim ou Steph.
Allons-y. Je pense que pour répondre à ta question, en tout cas, sur ce qu'on observe dans les attentes des publics, etc., il y a un truc qui est très clair, c'est qu'il faut que la promesse soit très explicite, qu'ils sachent exactement ce qu'on leur propose, ce qu'ils vont voir, parce qu'en fait, il y a un choix pléthorique de plateformes, de services, de types de divertissement. Est-ce que je vais passer les 5 prochaines minutes sur TikTok à lire un bouquin, à regarder une série, etc. Donc, c'est un vrai arbitrage et je pense que aujourd'hui, si les gens ne comprennent pas très précisément ce qu'on leur propose et si la promesse n'est pas bien tenue, c'est pas la peine, ça va décrocher instantanément et ça ne peut pas fonctionner. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc très fort autour de la clarté de ce qu'ils vont découvrir et je pense qu'on ne peut pas trop bluffer sur le produit ou le survendre ou le tordre parce que voilà, la sanction elle est assez rapide.
Complètement d'accord avec le constat de la promesse et de la lisibilité de l'offre. Comme tu l'as dit, on est dans un moment hyper concurrentiel entre toutes les plateformes et toutes les opportunités de distraction qu'on a aujourd'hui. Donc comment on capte, tu disais tout à l'heure, captiver encore mieux les gens, bah, c'est en ayant une proposition très nette, très claire, avec des, en tout cas nous sur les artistes, qui ont des propos très lisibles, voilà, très incarnés, très personnels, authentiques.
Ah ouais. Et ce qui renvoie vraiment directement, si tu veux, à la gestion de marque. La particularité d'une gestion de marque, c'est trois mots. Décidément, je suis avec mes trois mots. Le premier mot de la gestion de marque, c'est la radicalité. Il faut qu'une marque soit radicale, c'est-à-dire qu'elle soit très incarnée, enfin, qu'elle ait des valeurs qui soient fortes et qu'elle s'y tienne. Une marque, c'est quelque chose et ce n'est pas autre chose. Donc la radicalité, c'est un premier truc. La deuxième, c'est la cohérence, c'est-à-dire quels que soient les supports d'expression de la marque, que ce soit l'offre, que ce soit le produit, que ce soit la com, que ce soit le design, il faut que ça respire l'identité de la marque, donc sa radicalité. C'est ce qui fait qu'au bout, vis-à-vis du consommateur, il y a un impact fort. Et la dernière, c'est quand tu as un portefeuille de marque, qui est une complémentarité de marque qui permet de couvrir le marché. Donc ces trois choses-là reviennent à ce que vous dites, c'est-à-dire que quand on a une offre claire et radicale, on ne peut pas se gourer quoi, sur le choix. Quand on achète une Mercedes, c'est une Mercedes. On ne peut pas imaginer que la portière de Mercedes ait la lourdeur d'une portière de deux chevaux. Ce serait incohérent. Pourquoi ? Parce que ça ne correspond pas à l'esprit de la marque et que le corps n'est pas à l'image de l'esprit. Donc il y a cette espèce de cohérence qui est super importante dans le récit.
Super, non, bah, très intéressant. Et je pour rebondir aussi sur un... Récemment, on a fait un apéro au bureau, on avait appelé ça Inspiration et Cornichons. C'était assez marrant. J'avais que des potes qui sont venus, donc il n'y avait pas de clients, là, c'était le kiff, on était entre nous. On a mis cornichon pour ne pas mettre saucisson, parce qu'on venait d'avoir notre deuxième étoile dans notre stratégie de labellisation RSE. On s'est dit, cornichon, c'est quand même, ça consomme moins de carbone que le saucisson. On va dans le détail parfois. Et donc on s'est marré, et j'ai eu c'est Lamia, c'est ça, ta collègue ?
Lama.
J'ai rencontré Lama qui bossait chez Arte, donc pas Arte Concert, mais Arte, et qui nous a expliqué 3 semaines avant les élections présidentielles qu'ils avaient fait un programme pour annoncer en fait le grand gagnant des élections présidentielles en France, qui était entre fiction non fiction. Donc on était vraiment à nouveau sur ce sujet-là. Qui l'a vu en fait ? Qui voit de quoi je parle ?
Ça s'appelle Jour de gloire.
Pas grand monde. Ouais, vas-y.
Je vais la représenter. Ouais. Ça s'appelle Jour de gloire. C'est un film, c'est une fiction diffusée en direct, jouée en direct, diffusée en direct. Une heure avant le résultat du second tour de l'élection présidentielle, donc avec cette tension du moment où à 20h le gagnant va être révélé, la fiction peut basculer à ce moment-là. Voilà. Donc une petite innovation dans la façon de faire un récit, dans une fiction notamment filmée, et qui est hyper ancré dans l'actualité et que tout le monde partage, a priori, de savoir qui va être notre nouveau président.
Et ça a été diffusé le 24 avril.
Ça a été diffusé le soir de l'élection, entre 19h et 20h10, sur Arte TV, sur YouTube.
Moi, j'avais trouvé ça passionnant et je voulais te reposer la question, du coup, Steph, sur... Toi qui sors, je sais pas combien vous sortez de contenu par an chez Arte Concert.
On fait 1000 programmes par an sur Arte Concert.
1000 programmes, quoi. Mais au milieu de tout ça, d'ailleurs, en préparant, j'ai une petite vidéo assez drôle d'un truc qu'on a vécu, expérimenté hier matin. Mais est-ce que au-delà du sujet, il y a un enjeu aujourd'hui sur la nature des formats que vous sortez ? Est-ce que tu as certains formats qui te permettent d'exprimer mieux que d'autres les récits que vous souhaitez transmettre ? Parce que je sais d'ailleurs, par exemple, quand tu m'envoies des exemples de contenu, quand on échange un peu en préparation des events, c'est souvent des formats courts. Alors c'est normal parce qu'il faut qu'on les présente devant une audience. Et nous, on est un peu dans l'instantanéité là. Mais est-ce que toi, sur les 1000 programmes que tu sors, tu arrives un peu à rentrer les messages que vous souhaitez sortir dans des canevas, dans des formats spécifiques de story, de formats longs ? Je sais pas, voilà, si tu veux réagir à ça.
Oui, le format... doit être adapté à ce qu'on veut raconter et là où on le raconte. Forcément, quand on le diffuse à la télé, sur la 7 ou sur YouTube, sur un format d'une heure et demie, on ne va pas raconter la même chose dans une story de quelques secondes ou dans un Reels de 30 secondes.
Super. Je ne sais pas si vous voulez continuer de réagir à ça, mais n'hésitez pas. Là, j'aimerais bien passer un autre thème qui m'a intéressé. C'était la collaboration entre les artistes et les marques. Et Guillaume, peut-être te repasser la parole là, d'autant plus qu'on a Adrien. Je ne sais pas si tu es encore là, Adrien. Il est là, qui bosse à la direction marketing de Disneyland Paris. Et on s'est dit quand Guillaume est arrivé tout à l'heure, est-ce que ça va marcher ? Non, mais je vais mettre le visuel dans la foulée. On s'est dit avec Guillaume qu'il y avait un joli pont à faire. Guillaume, il y a quelques années, t'as fait un truc assez incroyable aussi, dont tu as peut-être envie de nous parler en lien avec Disneyland Paris, justement.
Alors, effectivement, moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant, effectivement, que l'édition se tourne vers l'entreprise. Et ça, moi, ça m'a toujours amusé, justement, c'est encore du collectif, à imaginer des projets avec des marques. Mais effectivement, des projets atypiques. Et donc, effectivement, j'ai deux expériences assez singulières dans ce domaine-là. Ce projet-là, voilà, Disneyland, où là, c'était un petit peu fou. C'est un projet qu'on a inventé avec un ami qui travaillait dans une boîte de pub qui avait le compte Disneyland Paris à l'époque. Donc c'est un projet qui a, je crois, 12 ans, 14 ans même, oh là là. Et donc un jour, je lui dis comme ça, je dis, si on emmenait plein de mes auteurs, plein de mes potes passer un week-end à Disneyland. Et là, il me dit un canon. Puis je lui dis, bon, par contre, le projet intéressant, s'ils sont libres de raconter, de raconter tout ce qu'ils veulent, et il ne s'agit pas de lisser leur univers. Effectivement, et nous avons eu carte blanche, et ça a été assez fou, parce Parce que voilà, on voit que certains, effectivement, ont eu des beaux parcours depuis. Donc ça, c'était assez rigolo. Et finalement, c'était très attractif, c'est le cas de le dire. Et puis, assez simple à monter, parce que voilà, ça amuse tout le monde, c'est de la pop culture. Et c'était, voilà. On a eu un seul tabou, mais on peut le dire, on est entre nous. Il y a une nouvelle qui n'a pas pu être dans le recueil, parce que, sans m'en rendre compte, j'ai touché à un tabou de cette entreprise. Et c'est là où c'est intéressant, encore une fois, dans le travail collectif. C'est que dans une des nouvelles, Scoop, un des auteurs, révélait qu'il y avait quelqu'un d'Antic et Tac. Eh bien non, il n'y a personne d'Antic et Tac. Il faut le savoir. Voilà, mais donc ça, c'était intéressant. Sinon, autre projet, j'y vais en même temps. Voilà, une autre fois, rien à voir, on m'a proposé de réfléchir à un recueil. Alors, ce n'était pas vraiment un recueil de nouvelles, mais faire quelque chose de littéraire autour des serviettes hygiéniques. Alors, sur le coup, je fais, ouais, c'est pas simple. Je suis allé, voilà, en rendez-vous dans cette très grosse entreprise. Et finalement, on a inventé une petite collection parce que je me suis dit, après tout, c'est extraordinaire, en fait, de faire découvrir des auteurs plus ou moins connus à des femmes dans un environnement, effectivement, où, a priori, il n'y a pas de littérature habituellement. Donc là, on a inventé un autre produit. En fait, c'était effectivement des nouvelles qui étaient encartées dans les paquets, en fait, de serviettes hygiéniques. Et au début, pareil, je me suis dit, bon, ça va être un petit peu compliqué d'embarquer des auteurs dans cet univers. Et donc, j'ai commencé à sonder des amies autrices. Et en fait, elles ont plutôt suivi l'aventure. Il y en a juste une qui m'a dit, écoute, ouais, j'adore cette idée, tout ça. Par contre, excusez-moi l'anecdote, elle me dit « je ne veux pas être dans le paquet flux abondant ». Donc voilà, parfois les auteurs ont des limites aussi.
Quand tu m'as raconté cette anecdote, ça m'a quand même fait marrer. Et toujours avec toi Guillaume, peut-être, et n'hésitez pas à réagir aussi sur ce que cette question vous inspire, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un auteur, un écrivain avec qui tu travailles, va se tourner vers une marque ou va accepter la proposition d'une marque pour un projet collectif? Alors, il y a des sujets sur lesquels c'est plus facile que d'autres, quoique on arrive à tout faire, à t'écouter. Donc, ta première réponse, je te passe la main là-dessus, c'est l'argent. Hein. Donc, voilà. Mais c'est en train d'évoluer, mais beaucoup d'auteurs et d'écrivains sont OK si vraiment il y a une vraie valeur ajoutée financière derrière ça. Mais ça peut être, donc, au-delà de ça, ça peut être quoi d'autre justement qui va motiver un auteur, un écrivain qui a un nom, qui a pignon sur rue, qui a mis 20 ans à obtenir un premier prix littéraire et qui du coup se fait solliciter par une marque? Qu'est-ce qui fait qu'il va y aller aujourd'hui?
Alors effectivement, il y a les sous, on en a parlé, mais il y a la curiosité. En fait, c'est double. En fait, c'est-à-dire, c'est aussi un confort de travail, se dire bah tiens, là, je vais avoir le temps, le moyen de passer tant de temps sur un projet. Et puis encore une fois, parfois il y a des auteurs qui ne font que ça, qui n'en peuvent plus d'être dans leur salon et un peu tout seul, et aller partir comme ça en immersion quelque temps dans une entreprise. Tu vois, je t'avais raconté l'exemple d'un auteur effectivement que j'avais embarqué dans un très beau projet avec une boîte de BTP, et il était allé comme ça passer 4 voyages, donc 4 dans 4 chantiers, dans 4 hôtels un peu partout dans le monde. Et donc là, voilà, c'était un voyage, c'était un projet fou. Voilà, le chèque n'était pas énormissime, mais la promesse était très très belle, quoi, encore une fois.
Tu parlais aussi de McDonald's. Donc McDonald's qui est une marque sur laquelle on dirait potentiellement que les auteurs n'iraient pas. Et tu avais un exemple justement d'une collab qui s'était faite.
Voilà, ça, c'est pas moi qui ai fait ce projet, mais je trouvais ça assez chouette. Effectivement, c'est Marc Lévy, donc un des auteurs quand même qui vend le plus en France encore aujourd'hui. Et effectivement, il a proposé, il a accepté une collab McDonald's où il s'est dit, mais après tout, avoir un petit livre pour enfants plutôt qu'un jouet en plastique fait en Chine, c'est quand même juste formidable. Et donc voilà, donc encore une fois, tout ça est possible si une belle histoire, enfin voilà, si on trouve le storytelling le plus juste et le plus sincère.
Exact. Quand on en parlait avec toi, Stéphanie, tu m'as dit de toute façon, nous, on est dans le public. On ne peut pas bosser avec les marques, en fait. On ne peut pas bosser avec les marques. Mais si toi, tu avais des conseils aussi ou des OP rêvés que tu aimerais imaginer entre Arte et des marques, elles prendraient quelle forme aujourd'hui? C'est quoi le champ d'exploration que tu aimerais aller... Je te pose une question pas facile là.
Ouais, tu me prends un peu de court parce que comme moi je suis conditionnée depuis 10 ans dans non, on ne peut pas travailler avec les marques.
Justement, alors raconte-nous un peu cette
expérience. On est une chaîne de service public, vous le savez, on est financé par la redevance audiovisuelle qui n'existe plus bientôt. Donc on ne sait pas si on existera encore l'année prochaine, mais a priori oui. On est financé par l'argent public franco-allemand, et donc voilà, on est évidemment, je n'ai rien à voir avec Netflix, qui est un modèle B2C, Voilà, on a pas les mêmes règles du jeu, mais on est aussi concurrents d'une certaine façon, puisqu'on propose des contenus à la demande et qu'on essaie de capter l'attention de nos publics avec nos différents programmes.
Et à ce moment-là, tu m'avais dit, mais en fait, la marque, c'est Arte.
Oui, disons que oui, effectivement, je travaille la marque Arte Concert et la marque Arte et Arte en général comme une marque média et qui représente voilà une certaine idée de ce qu'est la culture aujourd'hui, de ce qu'est le monde d'aujourd'hui, avec les valeurs qu'on souhaite transmettre. On travaille notre média comme une marque d'une certaine façon, puisqu'on ne peut pas travailler avec les autres marques.
Comment se passe un comité édito ? Je sais qu'hier matin, tu en animais un, il me semble. Tu as sauté pour arriver chez nous à la conf TikTok. Un comité édito chez Arte Concert, ça se passe comment ? C'est un comité édito classique où autour de la table, il y a, je sais pas, il y a d'autres parties prenantes. Il y a un terreau avec des gens qui viennent nourrir justement la marque et Arte différemment de ce qu'on pourrait observer dans une autre marque. Et s'il y a des bonnes pratiques à transmettre à nos annonceurs ou nos marques qui sont là, n'hésite pas, je pense que c'est toujours intéressant pour nous.
Alors, un comité édito chez Arte, en tout cas chez Arte Concert, ça consiste à examiner les propositions qui nous sont faites, en l'occurrence chez Arte Concert, des propositions soit de captation d'un artiste qui va se produire à l'Olympia, au Trianon ou ailleurs, soit une proposition d'un programme avec un concept qu'on appelle nous après une collection. Donc, vous connaissez peut-être sur Arte Concert Passengers, Dans le Club, les release parties, les concerts volants. Voilà. Donc on examine des propositions qui nous sont faites et on est évidemment plusieurs à les regarder. Il y a plusieurs regards, plusieurs types de compétences et de métiers, plusieurs âges aussi dans l'équipe. Arte, c'est une chaîne qui a 30 ans, c'est son anniversaire cette année. Et donc il y a des gens qui sont là depuis 30 ans. Moi, j'y suis depuis 10 ans et il y a des personnes qui sont là depuis 3 ans. Donc, on essaie de mélanger tout ce monde-là dans la même pièce pour examiner les projets, pour avoir un regard collectif, pluriel, transgénérationnel sur voilà, ce que ça raconte, qu'est-ce qu'on va raconter avec ça et est-ce que ça rentre dans notre ligne éditoriale.
Sans transition, je vais montrer quelques-uns des contenus que vous avez produits. Et ce qui m'intéresserait, c'est qu'à la fin de la vidéo, tu nous dises... l'émotion que vous souhaitiez transmettre à travers cette vidéo.
Ça boucle, donc vous avez okay. Vu quasiment l'essentiel. C'est le snacking content, comme tu appelles ça, yes. Greg. Donc ça, c'est Fakir qu'on a placé sur la passerelle du MUCEM à Marseille. C'est dans notre format d'émission qui s'appelle Passengers, où on place un artiste dans un endroit particulier qui, pour nous, fait lien avec le travail de l'artiste. Donc Fakir, pour ceux qui connaissent, c'est un musicien, musique électronique, avec des tendances musique du monde. Voilà. Et ça nous semblait faire sens de le placer là, au MUCEM, avec les activités du musée. Ta question, pardon.
Non, c'était
ça. L'émotion.
Ouais. On a perdu la slide, elle va revenir. Mais sinon, je l'ouvre là. Vas-y. Ouais, quelle émotion vous souhaitiez. Ça répondait à quel objectif et vous souhaitiez transmettre quelle émotion en fait à ce moment-là ?
Alors, quand on fait nos programmes, je ne me mets pas comme objectif quelle est l'émotion qu'on veut transmettre, mais plutôt comment on peut retranscrire la personnalité et la création d'un artiste dans un écrin qui lui ressemble le plus.
Donc Joachim, c'est à toi. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu la genèse de cette série qui a cartonné ? Est-ce que tu en retiens, toi, en fait, des ingrédients qui font que ça marche pour que nos marketeurs, nos communicants disent « Ouais, en effet, aller aux bornes de ma société, sans avoir forcément les moyens de Netflix, je peux mettre en place des processus, des procédés, des idées, des mécanismes qui font que ouais, je vais produire des contenus qui vont être récurrents, haletants, avec des cliffhangers, des accroches, et qui font que bah, juste ça va marcher. »
Alors, j'ai pas la chance d'avoir été chez Netflix au moment où la première saison est arrivée, mais en revanche, effectivement, c'est un cas super intéressant où on voit qu'on a vraiment changé la perspective sur la Formule 1. C'est une série, on en est à la quatrième saison, et à chaque saison, la série a grandi, a trouvé un public de plus en plus large, et clairement, ça a démocratisé la Formule 1. Il y a plein de gens qui s'y sont intéressés, qui se sont mis à suivre les compétitions, suivre les résultats, suivre les équipes, les écuries, alors qu'auparavant, ils ne le faisaient pas du tout. Donc, clairement, ça a eu un effet. Et je pense que le parti pris, c'était, et c'est Box to Box qui a trouvé ça, qui était déjà une boîte de prod britannique qui avait fait le documentaire sur Amy Winehouse, etc., qui s'est dit, en fait, finalement, est-ce que le truc le plus intéressant sur la Formule 1, c'est pas ce qui se passe sur la piste, mais plutôt ce qui se passe de l'autre côté, derrière, en fait. C'est ces personnages, ces gens qui, qui sont déjà des passionnés. Généralement, quand on regarde des passionnés, c'est globalement plutôt intéressant. C'est dur de s'emmerder devant des passionnés. Et effectivement, il y a aussi cette dimension hyper intense à travers l'aventure de six équipes, six écuries. Toutes les rivalités, tous les enjeux entre ces humains, en fait, la fébrilité qu'il y a, les déceptions, les moments de jubilation qu'ils peuvent vivre. Donc ces gens avec qui on va vivre quelque chose, c'est pareil, c'est un truc qui est alors, de la pure non-fiction, puisque quand ils commencent la saison d'F1, ils ne savent pas comment elle va se dérouler, ils ne savent pas à quel moment les choses se font, mais il y a quand même un vrai travail d'écriture à différents moments. Et effectivement, après, ça produit un récit où il y a une vraie émotion, il y a une vraie vibration. Et quand on regarde ça, c'est aussi haletant, je pense, que plein de séries scriptées, parce que c'est des vraies histoires, c'est des vraies émotions. Il y a une authenticité, je pense que c'est aussi une dimension importante. Les gens, quand ils pleurent dans cette série, ils pleurent toutes les larmes de leur corps, ou quand ils sont heureux, c'est assez fort. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a aussi donné lieu, du coup, maintenant, à toute une nouvelle vague de documentaires sur les univers, sur le monde du sport. Donc on va décliner cette approche dans le monde du tennis avec l'ATP, autour du Tour de France, on va tourner cet été, pareil, en suivant six équipes du Tour, on ne sait pas comment ça va se passer. C'est un énorme lâcher-prise aussi pour les équipes sportives qui acceptent de donner un full accès à tout ce qui se passe dans leur aventure, et ils ne savent pas comment ça va se passer, donc ils acceptent de s'exposer en prenant le risque aussi de montrer peut-être des choses qui d'habitude sont plus secrètes, ou sur lesquelles elles auraient peut-être envie d'être plus pudiques. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça aussi qu'on va pouvoir montrer des choses intéressantes, montrer des choses qui ont du relief et qui vont créer de l'émotion. Donc je pense qu'il y a vraiment cette dimension-là. Et donc là, effectivement, on le déroule sur d'autres disciplines sportives. Mais globalement, il y a quand même cette idée que on retrouve des personnages, on retrouve des histoires. Et effectivement, on raconte une grande histoire par des petites histoires individuelles, des situations, des moments de vie. La dimension de lâcher prise, elle est assez fondamentale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pareil pour les équipes dans le monde du cyclisme, on sait que c'est un monde aussi qui a eu un certain nombre de polémiques, donc il y a une pudeur aussi de ce monde-là, c'est effectivement, on y va, on montre ce qui se passe, on accepte de dévoiler aussi des moments de vulnérabilité, mais c'est ça aussi qui rajoute effectivement de la vie et de la substance au contenu, c'est ça qui fait que les gens vont s'attacher à le regarder, quoi.
C'est drôle, ça. Moi, je vais conclure là-dessus. Donc, à nouveau, ça va être votre moment si vous avez des questions. Ça fait vraiment écho, bizarrement, presque, j'ai envie de dire, à ce qu'on s'est échangé hier avec TikTok, en fait. Ce qui marche sur TikTok, c'est le côté behind the scene. C'est vraiment, OK, les coulisses de... Donc, on avait Merci Andy, qui est une marque de gel hydroalcoolique, entre autres. Donc, c'est bien plus que ça. C'est devenu une love brand. Mais qui expliquait que les contenus qui performent le mieux chez eux, c'est des contenus qui font 1 million de vues, hein. C'est tourné par le stagiaire. C'est le côté genre, on est derrière, regardez ce qui se passe. Et quand à un moment, il y a de l'authenticité, comme vous le disiez, et une petite caméra qui tourne derrière, ça fonctionne. Après, les gens, mettre les gens en premier plan. Et je pense que ça ment pas, en fait. Quand on va vers Verstappen s'énerver, on est dedans et on sent très bien qu'il y a un caractère, il y a une personnalité. Et en fait, très souvent, quand on a une marque, on est un peu contraint par sa plateforme de marque, sa charte graphique, sa charte éditoriale. Et on est in the box. Il faut arriver à sortir de ça. Je pense que c'est vraiment un conseil que je vais essayer de partager cet après-midi quand je ferai la synthèse des échanges. Et ce lâcher prise, il est nécessaire, mais pas évident. Parce qu'à quel moment on arrive à se dire, OK, j'y vais, je suis Dior, je suis une marque de luxe, et j'ai Cara Delevingne qui va arriver et qui va essayer de dire le mot joaillerie en français et qui n'y arrive pas. En fait, le luxe, on sait que c'est toujours très contrôlé, très normé. Hier, on a diffusé cette vidéo de cette mannequin influenceuse qui n'arrive pas à dire le mot joaillerie. C'était risqué potentiellement pour la marque parce qu'elle perdait le contrôle. Et en fait, c'est ce qui fait qu'à un moment, c'est élégant, que c'est fun, que c'est behind the scene et que ça a fonctionné. Et j'aime bien cette histoire de... Ouais, tu voulais peut-être réagir, vas-y.
Non, vas-y.
Ouais, de vulnérabilité, en fait. Hier, on a parlé d'un sujet autre aussi, c'est bien quand c'est inutile. Il n'y a pas forcément un objectif, un enjeu, un truc, un KPI qu'on doit valider, qu'on doit obtenir quand on est une marque et qu'on sort un contenu et qu'on se lance dans une stratégie de contenu. Il faut arriver à, et ça c'était aussi vraiment le message de ce qui marchait le mieux sur TikTok, mais à ne pas se prendre au sérieux. Donc pour des marques qui ont des costards un peu serrés, mais qui doivent danser quand même un peu sur le dance floor pour être sexy, il y a souvent un peu un dilemme en fait là-dedans. Et je trouve que c'est magnifique. C'est arriver à se faire confiance, à dicter ses propres règles, à sentir quand il y a une tension aussi. Moi, ce que je trouve magnifique, c'est la tension. On a envie de savoir ce qui va se passer. Et donc, si on arrivait en tant que marque à susciter, alors pas forcément systématiquement avec les mêmes enjeux, hein, mais cet intérêt, cette tension, qu'est-ce qui va leur arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Je suis sûr que ce serait des bons moteurs pour nos stratégies de contenu.
Je voulais juste ajouter un truc, parce que ça correspond aussi vachement à ce qui explore Netflix, et ce qui est aussi une des choses sur lesquelles, enfin, une des vraies convictions de la boîte et une des vraies ambitions, c'est aussi qu'il y a un vrai réservoir d'histoires pas racontées dans différentes géographies. En fait, en gros, là, par exemple, nous, on travaille, on accompagne avec le Conservatoire d'écriture européen pour essayer de détecter des jeunes auteurs des Outre-mer, parce qu'on ne connaît pas les histoires des Outre-mer, en fait. On n'a pas d'histoires qui viennent de nos dom-toms. Mais c'est la même chose dans le succès de Squid Game, c'est parce que le propos de la série est intéressant, mais c'est aussi parce qu'en fait, il dévoile un peu de la société coréenne et qu'il y a une curiosité pour ces choses-là. Et en fait, je pense qu'il y a aussi cet appétit. Je pense qu'on a tous beaucoup été nourris par des histoires qui venaient des États-Unis, qui étaient peut-être un peu plus formatées, très Hollywood, etc. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les histoires, elles voyagent bien, en fait, et que les gens ont une curiosité aussi pour voir une histoire coréenne, une histoire espagnole, et ça apporte aussi de la fraîcheur, du renouveau, parce que c'est d'autres imaginaires, c'est d'autres langues, c'est d'autres tronches, et je pense qu'il y a vraiment cette dimension-là, et en fait, c'est plongé dans des univers hyper spécifiques, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on rentre dans un autre monde, et c'est un monde, a priori, auquel on n'a pas accès. Donc je pense qu'il y a aussi cette dimension-là, c'est que faire voyager les récits, et faire venir aussi peut-être des récits qui viennent d'autres géographies, d'autres cultures, et qui vont avoir un propos différent, c'est très rafraîchissant et je pense que ça apporte du nouveau.
Je vais rebondir parce que je suis hyper d'accord avec ce que dit Joachim et c'est un truc que j'ai remarqué avec Netflix, c'est qu'il y a, dans la concurrence, il y a aussi des bonnes choses. C'est-à-dire que Netflix arrive à renouveler aussi la façon de faire des récits. Quand on voit cette série là sur la Formule 1, on aurait pu faire un documentaire de 90 minutes ultra classique et en fait ils ont utilisé les codes de la série pour raconter ce que c'est le monde de la Formule 1. Et par ailleurs, sur ce qui est raconté sur la géographie, ce qui est assez dingue, c'est que Lupin, tourné en France à Étretat avec des acteurs français, ça marche dans le monde entier, donc ça fait rayonner la France dans le monde entier, donc pour ça on peut dire merci Netflix. C'est pareil sur la série coréenne, sur Squid Game. Ça nous force à nous intéresser à quelque chose qui est loin de chez nous, mais ça nous intéresse parce qu'on est attrapé par l'histoire. Et en fait, depuis qu'on est tout petit, on nous raconte des histoires, et puis on grandit, mais en fait, il y a toujours l'enfant qui est en nous, à qui on veut raconter des histoires. Donc c'est sans fin, c'est comme les bouquins. Voilà, des histoires d'amour, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, et ben, il faut les raconter.